Raconter l'histoire récente de Douarnenez, c'est forcément évoquer les peines sardines, ces femmes qui mettaient les sardines dans les boîtes de conserve. Une activité qui va se faire pendant plus de 100 ans, jusque dans les années 80. Si on ne devait citer qu'une de ces femmes, c'est sans aucun doute le nom de Joséphine Pencalette qui viendrait en tête. Elle est considérée par beaucoup comme la première femme élue de France. La première, vraiment ? Bienvenue dans la rubrique des bunkages, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. Resituons le contexte. Depuis les années 1860, la ville de Douarnenez s'est spécialisée dans la conserve des sardines, une industrie que l'on trouve dans plusieurs ports du Finistère Sud. Si les hommes partent au large pour pêcher ce poisson, les femmes, elles, sont employées pour les mettre dans les conserves immédiatement après que les prises soient arrivées au port. Et oui, de jour comme de nuit, des sirènes retentissent pour appeler ces ouvrières que l'on va très rapidement appeler peines sardines, ou tête de sardine en français. Ce nom renvoie tant à leur activité qu'à leur coiffe typique de cette partie-là du Cap Sizun. L'historienne Fanny Bignon a bien étudié le parcours de Joséphine Pencalette, l'une de ces fameuses peines sardines. Née à Douarnenez en 1886, elle a travaillé un temps à Argenteuil en région parisienne. Elle revient dans sa ville natale avec ses deux enfants en 1924 lorsqu'elle perd son mari. Joséphine se fait alors embaucher dans l'une de ses conserveries. Un travail qui possède beaucoup d'inconvénients. Des conditions pénibles, des horaires qui dépendent comme nous l'avons vu de l'arrivée des bateaux, et surtout, des salaires qui varient d'une conserverie à l'autre. Déjà en 1905, une grève conduit à un changement majeur pour ses salariés. La rémunération basée sur la capacité de mettre 1000 sardines en boîte, qu'on appelle le 1000 de sardines, est remplacée par une rémunération à l'heure. Ce qui évite des bas salaires dans le cas où la pêche soit moins fructueuse. En 1924, une nouvelle grève éclate. Elle dure cette fois plusieurs semaines et paralyse le port. Joséphine prend part à son combat, tout comme une grande partie des femmes. Cette fois, la revendication majeure est une revalorisation de la paie avec 25 sous supplémentaires de l'heure. La mairie de Douarnenez se déclare solidaire, décide d'organiser le comité de grève et même l'installe au sein de la mairie. Une initiative portée par le maire Daniel Le Flanchec, un militant communiste. Grâce au relais de personnes et de structures influentes, cette lutte, d'abord locale, reçoit un écho en dehors même du port de pêche. Des soutiens qui viennent des milieux syndicaux et des politiques de gauche. De quoi donner une visibilité certaine à l'échelle de la France. Fin décembre 1924, un coup de force des usiniers donne une nouvelle dimension à cette grève. Des hommes de main sont appelés pour assassiner Le Flanchec, le maire communiste. Une attaque qui échoue, mais qui provoque l'indignation générale. La préfecture demande alors aux usiniers de répondre aux attentes des grévistes. La grève est donc victorieuse. Quelques mois plus tard, un autre événement politique se prépare. En mai 1925, ont lieu les élections municipales. C'est l'occasion pour Le Flanchec de briguer un nouveau mandat et de réaffirmer sa légitimité et celle de son équipe. Leur liste est composée de communistes. Mais, fait surprenant, on y retrouve le nom d'une femme, celui de Joséphine Pencalette. Comment cette personne peut se retrouver candidate alors qu'en France, le droit de vote des femmes n'est même pas encore légal ? Comme l'explique l'historienne Fanny Bignon, le Parti communiste français est dépendant des directives du Parti communiste de l'Union soviétique. L'une de ces directives, c'est de faire participer les femmes aux luttes, y compris dans l'exercice du pouvoir. Or, en France, il existe une brèche permettant leur élection. D'après le code électoral alors en vigueur, la préfecture ne vérifie la validité des candidats qu'après seulement les résultats. C'est ainsi que le Parti communiste décide de suivre à la lettre cette consigne et de présenter des femmes sur une grande partie des listes qu'elle soutient, même si en réalité, elles sont infiniment moins nombreuses que leurs homologues masculins. Qu'importe, à Douarnenez, l'équipe de Le Flanchec applique la consigne et cherche une candidate. Peu de femmes veulent s'engager, seule Joséphine y consent. Elle est alors placée en 4e position sur une liste de 27 noms. Au moment des résultats, le score est sans appel. La liste communiste remporte 26 des 27 sièges. Mais à l'époque, on pouvait rayer les noms d'une liste. Joséphine est donc élue, mais elle ne recueille qu'assez peu de voix, puisqu'elle arrive à la 24e place. De plus, ce qui devait arriver advint, au lendemain du scrutin, la préfecture annule l'élection de l'ouvrière. Mais elle fait appel en attendant une réponse du Conseil d'État, ce qui permet à Joséphine de siéger de mai à novembre 1925 au Conseil municipal, faisant d'elle, pour certains, la première femme élue de France. Ce qui est à la fois vrai et faux. Vrai, car aucune femme ne fut élue de la sorte auparavant. Mais faux, car elle n'est pas la seule à avoir été élue ce jour-là. Le Parti communiste français a mené d'autres listes. Et parmi elles, plusieurs femmes furent élues cette année-là. En région parisienne, on compte Marthe Tesson à Bobigny, Augustine Variot à Malakoff, ou encore Marie Chaix à Saint-Denis. Émilie Joly et Adèle Métivier sont élues à Saint-Pierre-les-Corps, à côté de Tours. Si Joséphine Pencalette est la première bretonne élue de France, n'oublions pas ces autres femmes qui furent également élues et qui firent avancer d'un pas considérable la reconnaissance des droits politiques des femmes dans ce pays. Merci à Stuart Lesvier pour l'écriture de cet épisode et à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubriken Historbraise. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt.